François-Xavier Ménage, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous donnez la parole à des anonymes, des témoignages forts qui décrivent le quotidien des Français. Commençons par la santé, les hôpitaux, les médecins généralistes. La crise semble justement généralisée. Pour illustrer, vous décrivez l'histoire notamment à Oudan, en Ile-de-France, en plein désert médical d'Apolline, qui travaille 365 jours par an. Elle vous décrit son métier et aussi ses contacts avec les patients, une histoire complètement dingue.
Dans une ville qui est quand même aux portes de Paris, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de désert médical. Si, il y a un désert médical et elle, son quotidien, c'est que jamais elle peut se reposer. Jamais de samedi, jamais de dimanche pour elle. Pourtant, elle a des enfants, elle se bat alors qu'elle a perdu son mari et elle se bat donc sur le terrain avec des patients qui lui disent « si vous n'êtes pas là, ça va être encore plus compliqué ». Et elle prend ça à bras le corps. Donc, le livre s'appelle Ça craque, mais ça craque pourquoi? Parce que elle représente, je pense, une grande partie de ces Français qui avancent silencieusement, sans faire de vagues. Moi, cette femme, je l'ai rencontrée par le plus grand des hasards. Elle a pas levé la main hein, pour dire « j'aimerais qu'on parle de moi ». Et je trouve que c'est très important, justement, ce rapport à ces individus qui sont anonymes, mais qui sont des héros. Et c'est vrai que si elle n'était pas là, c'est comme ça qu'il faut voir le problème, et c'est en creux ce que raconte ce chapitre. Si elle n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait? Étant entendu que ces patients n'ont souvent pas de médecin traitant, et qu'ils sont isolés, que le seul contact qu'ils ont dans la journée, c'est le « bonjour, madame, merci d'être venue à Pauline ». Et parfois, eh bien, sa visite qui devrait durer un quart d'heure dure 1h15 et elle se plaint pas. Elle garde le sourire et donc malgré le titre du livre, ça craque, il y a aussi une foultitude de sourires dans ce bouquin.
Autre rencontre, autre situation, le système éducatif dans un lycée, le pire lycée de France, dites-vous, à Mayotte. 4 lycéennes témoignent et ce qui en ressort c'est la violence, hein, notamment. L'une d'entre elles a reçu un coup de couteau en sortant de classe. C'est des choses qui paraissent complètement incroyables et ça se déroule en France.
Et c'est une violence qui, malheureusement, a été documentée par beaucoup d'autres. Et les quatre voix que moi je mets en parallèle les unes avec les autres, et pour le coup c'est un dialogue hein, qui est restitué tel quel, montre à quel point elles ne sont pas désabusées. Aucune n'a encore 18 ans et toutes rêvent de faire des études qui marchent. En revanche, elles disent que plus que jamais, leur quotidien à elles est très difficile. Parce qu'effectivement, c'est les caillassages quand on est dans les bus scolaires. Certains sont même obligés, pour se rendre dans ce lycée, on est en France, de mettre des casques de moto pour éviter que des cailloux ne viennent les percuter, puisqu'il y a des cailloux qui sont frappés contre des bus scolaires. Et certains d'ailleurs qui conduisent ces bus disent « bah non, je vais pas bosser aujourd'hui ». Donc on voit bien dans ces témoignages, et je pense que c'est fondamental de le comprendre aujourd'hui en 2023, on n'est pas dans l'aspect des abusés, on est dans l'aspect « quand est-ce que ça va s'alléger un petit peu ?» Et ces jeunes filles sont remplies d'espoir, mais leur quotidien est fait de fardeaux et effectivement, travailler dans ces conditions-là, quand ensuite elles vous disent « mais on sait même pas si on aura un bus scolaire qui pourra nous amener au lycée, on a envie de bosser, on a besoin de bosser, le bac arrive, comment on va faire ?» Je les avais rencontrées en décembre et je pense que cette pression, il est important de la représenter. Et une fois de plus, ce sont pas des personnes qui sont vindicatives, ce sont pas des gens qui ont envie de gueuler très fort. Au contraire, c'est cette France-là encore silencieuse qu'il est, je pense, vraiment important de représenter.
Enfin, un point sur les transports. Il y a, vous dites, les chanceux. Et les oubliés comme Cécile en Bretagne, qui fait partie des 14 millions de Français touchés par la précarité mobilité. Parlez-nous d'elle et de son quotidien.
Oui, c'est une femme comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et on le voit dans le livre, hein, les transports c'est fondamental. Quand on ne peut pas aller d'un point A à un point B, quand on n'a pas l'argent pour l'essence, quand on a de l'essence et une voiture, mais qu'on se rend compte que finalement on ne peut plus aider les autres que l'on aidait, c'est vrai y compris pour des bénévoles dans les associations qui disent « même nous bénévoles, c'est compliqué aujourd'hui de conduire une personne ou une autre dans le cadre d'associations parce que nous-mêmes on n'y arrive plus ». Et cette notion des transports elle est fondamentale parce que ça renvoie à la question des sacrifices. Sacrifices pour les Français qui ne peuvent pas se déplacer, sacrifices aussi, et ça dit beaucoup, je pense, de la défragmentation en France, sacrifice pour les communes qui parfois disent, et vous donniez l'exemple de la Bretagne, eh bien il y a en centre-Bretagne des communes qui se regroupent et qui disent « ok, on n'a pas de solution au niveau national, on va pas fabriquer des lignes de train qui ont été fermées il y a 10, 15, 20, 30 ans, alors on va faire des bus ». Sauf que quand vous installez des bus pour relier des petites villes afin que notamment certains puissent travailler, ça a un coût énorme. Et dans le cas que je cite, vous avez tout un système de bus qui a été mis en place, les recettes, 30 000 euros. À la fin de l'année, puisque le trajet coûte environ 1 euro, le coût 1,5 million d'euros. Alors comment ces communes vont-elles faire pour tenir avec une dette comme ça qui va s'accumuler pendant des années et des années? Ça renvoie à la question, et c'est vrai dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui, de l'État et l'aspect local. Ce ne sont pas parfois les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et c'est important de raconter le terrain. Le bouquin est garanti sans parole ministérielle. C'est les Français qui parlent.
Alors justement, on pourrait détailler la multitude de témoignages qu'il y a dans votre livre, dans tous les secteurs, tout ce que vous décrivez. Alors, vous, est-ce que vous avez été surpris par les rencontres et par la situation du pays ?
Toujours. Toujours surpris. Après, nous, on a un rapport d'étonnement en tant que reporter qu'on doit toujours avoir. Et de toute façon, on n'a pas besoin de se forcer. Je suis toujours étonné. Mais pas tant par le constat que par ce qui suit. Parce que moi, c'est vrai que pendant 5 ans, j'ai beaucoup travaillé notamment sur la question de la précarité, qu'elle soit dans les transports, en éducation, en santé. Ce qui me marque, c'est que bien souvent, ceux qui sont les premiers à souffrir ne le disent pas, l'admettent, et parfois, quand ils cherchent des solutions, c'est seulement au niveau local. Et ça renvoie derrière tout ça, la question de la politique. Et je dois être totalement transparent avec vous. Les seules fois où j'ai parlé avec des centaines d'interlocuteurs que j'ai vus pour ce bouquin, les seules fois où on parle de politique, c'est moi qui emploie le mot, c'est moi qui pose des questions. Mais sinon, mes interlocuteurs, je veux pas généraliser, mais c'est vrai dans un grand nombre de cas, ne parlent pas de politique, ne mentionnent plus la politique nationale et sont dans des considérations beaucoup plus locales. Et c'est comme si ce monde politique, ce monde qui décide, hein, je parle du monde législatif et exécutif, était totalement ailleurs. Vous savez, comme un tableau de Nicolas de Staël où on ne sait plus vraiment quoi regarder. Et ça, ça me frappe continuellement. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, on ne comprend plus quel est ce tableau. Et le tableau, pour le coup, c'est la France. Et la France de 2023, elle avance très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on veut nous dire, beaucoup plus vite que parfois on le représente nous dans les médias et dans la classe politique. Sauf que la rapidité avec laquelle avance la France, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de soubresauts et que les premiers à ne pas comprendre ce qui se passe parfois, évidemment, c'est les Français eux-mêmes.
Alors justement, on va faire une photographie 5 ans après votre travail de terrain, d'enquête, de reporter, de rencontre avec les gens. Quel est l'état d'esprit de ces Français pour vous? Ils sont désabusés, ils sont tristes, ils sont inquiets, ils sont en colère. C'est quoi cette réalité maintenant?
Alors, c'est très très difficile de répondre. Je pense qu'il y a plein de réalités différentes. Moi, je pense qu'il faut imaginer, je vais être un tout petit peu joyeux 2 secondes, il faut imaginer une boule à facettes avec à chaque fois des rayons de lumière qui sont très différents et qui partent dans tous les sens. Je peux pas vous le dire autrement. C'est-à-dire que ce serait facile de dire que tout le monde est désabusé. Ce serait facile de dire que la France est en train de se péter la gueule et dans 10 ans, il y aura plus de pays. Mais c'est pas vrai. Personne ne le pense. Et je pense, et c'est vrai que c'est stipulé par beaucoup d'études sociologiques et d'instituts de sondage qui disent que au niveau personnel, les Français trouvent que ça va mieux qu'au niveau national. Alors, je pense que là aussi, il faut rester un petit peu plus subtil, mais ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir, il y a encore beaucoup de solutions. Mais le mot-clé que je retiens, moi, dans ce livre, c'est la débrouillardise. Et on a une France très débrouillarde, les élus locaux, le chef d'hôpital, la directrice d'école, ils se débrouillent tous avec beaucoup de charges de travail. Et j'insiste, il n'y a aucune personne dans ce bouquin que je suis allé voir et qui me dise « moi je reste dans mon canapé toute la journée et je vous raconte ce qui va pas en France ». Ils sont tous en train d'agir, ils sont tous dans l'action, c'est tout le temps imparfait, c'est les premiers à le dire, mais ils avancent. Et donc il y a plein d'espoir quand même dans un livre qui pourtant s'appelle « Ça craque » et qui je pense raconte beaucoup de choses sur nous et c'est pour ça qu'il me tient à cœur.
Justement le titre, on va en reparler, « Ça craque », combien de temps ça va tenir selon vous ?
Alors, il y a un tout petit peu quand même de mise à distance à la toute fin du livre, parce que ça craque, on se rend compte que c'est probablement vieux comme le monde. Et il y a 20, 30, 40, 50 ans, je prends l'exemple de Paris Match, on racontait les mêmes choses, c'est-à-dire une France qui craque. Sauf qu'aujourd'hui, on a du mal, je pense, moi le premier, à se représenter ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et c'est question fondamentale d'ailleurs, et je suis pas sûr qu'on puisse y répondre, hein, sûrement pas en 3 minutes, eh bien, ça renvoie à nous-mêmes aussi. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner aussi pour cette société? Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français qui donnent dans les différents chapitres que j'évoque, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi. Donner sans forcément attendre en retour, et quand on attend, on est souvent déçu.
François-Xavier Ménage, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'enquête « Ça craque », publiée aux éditions Robert Laffont.